Je ne suis pas doué. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ça? Alors peut-être, il y a 15 jours, en admirant les tableaux qui étaient affichés, puis en vous comparant, vous vous êtes peut-être dit « je ne suis pas doué par rapport à ceux qui ont fait ces tableaux ». Ou peut-être, dans un mois, avec les Jeux Olympiques, en voyant les performances des autres, vous vous direz « je ne suis pas doué ». Ou peut-être simplement dans la vie de tous les jours, on se trouve quelquefois en dessous de ce qu'on aimerait être. Puis en tout cas, si vous ne vous êtes jamais remis en question à ce propos, certainement quelqu'un a dû s'en charger pour vous. Et quand on s'entend dire « ah ben t'es vraiment pas doué », autant quand c'est nous qui nous disons « ça passe », autant quand c'est quelqu'un d'autre, c'est un peu plus difficile à entendre, surtout quand c'est dit avec un brin de condescendance. Mais au fait, qu'est-ce que c'est être doué? Être doué, c'est avoir du talent, dit le dictionnaire. Par contre, douer quelqu'un, parce que c'est un verbe douer, eh bien, douer quelqu'un, c'est le pourvoir de qualité ou d'avantage. Et le dictionnaire complète cette définition avec une précision. Savez-vous quelle est la particularité de ce verbe? Le Robert, je ne parle pas de notre ami qui vient de temps en temps, je parle du dictionnaire. Le Robert explique que le verbe douer n'accepte pas n'importe quel sujet. Vous ne pouvez pas et je ne peux pas douer quelqu'un. Le dictionnaire affirme que seul Dieu et la nature peuvent douer quelqu'un. C'est une évidence et en tout cas, le dictionnaire le confirme. Être doué ne dépend donc pas de nous. Et il n'y a aucune gloire à tirer des dons que l'on a reçus. Il n'y a non plus pas de raison de dénigrer quelqu'un pour les dons qu'il n'a pas reçus. Pourtant, toute notre société tend vers la glorification des personnes qui ont reçu des dons et vers l'humiliation de ceux qui ne les ont pas reçus. Il faut reconnaître que nous sommes en admiration devant les gens doués et malheureusement peut-être quelquefois un peu méprisants pour ceux qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Dans les deux cas, c'est le donateur qui est concerné, c'est-à-dire notre créateur. Et plutôt que d'encenser la personne douée, je dois admirer celui qui l'a doué, louer le créateur. De même, je ne peux pas me vanter des dons que j'ai reçus, mais je dois remercier celui qui m'en a pourvu. Et si je méprise quelqu'un qui n'est pas doué, je me fais l'accusateur de celui qui l'a créé. L'œuvre de Dieu, tant dans la nature que dans ses créatures, elle est extraordinaire. Et même une personne que nous considérons comme vraiment pas douée, c'est une créature merveilleuse. Merveilleuse par toutes ses capacités physiques, ses sens, la mécanique de sa respiration, les battements de son cœur, la repousse de ses cheveux, de la peau, de ses dents, par ses réflexes, par son équilibre, par sa sensibilité, et puis j'en passe. La Bible, d'ailleurs, nous instruit à ce sujet. Et David, dans le psaume 139, au verset 14, écrit « Je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. » Et David n'écrit pas cela pour se vanter. Il ajoute tout de suite « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, écrit « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Se vanter de ce que l'on est, finalement, c'est voler la gloire de Dieu. Et se dévaloriser, c'est dévaloriser le Créateur et donc aussi lui enlever sa gloire. C'est malheureusement lorsqu'on est privé de quelque chose que l'on se rend compte combien cela était précieux. C'est vrai pour la santé et toutes les capacités qui la composent. C'est vrai aussi pour notre liberté et tout ce qu'elle nous permet de faire ou de ne pas faire. Il y a des dons qui sont personnels, mais il y a aussi des dons qui sont collectifs. Nous avons le privilège de vivre dans un beau pays avec des terrains cultivables, un climat tempéré, une liberté que l'on trouve dans peu d'autres endroits, un accès aux soins même pour les plus pauvres, et l'essentiel pour ne pas se demander en se levant le matin comment on va passer notre journée. Pourtant, les Français se plaignent et sont parmi les plus pessimistes de notre planète. Un sondage en septembre 2023 donne seulement 29% des Français optimistes pour l'avenir de leur pays et seulement 25% des Français sondés sont optimistes pour l'avenir de la planète. Si le sondage avait lieu aujourd'hui, il serait sans doute encore plus mauvais parce que les circonstances ne se sont pas améliorées. Si on prend un sondage plus général, en 2018, une enquête BVA réalisée dans 50 pays mettait la France au 46e rang pour l'optimisme, loin derrière l'Albanie, l'Inde, le Mexique et bien des pays pauvres et gangrénés par la violence. Oui, notre réputation française d'insatisfaction est bien connue. Est-ce que ce pessimisme est justifié ? Eh bien, il faut reconnaître que notre planète ne va pas très bien. Pourtant, la Bible nous dit que l'Éternel a créé toute chose bonne. Et le chapitre 1er de la Genèse est ponctué par cette affirmation « Dieu vit que cela était bon ». La dernière création de Dieu, l'être humain, a même été créé à l'image de Dieu. Tout est donc parfait, les créatures comme la création. Alors où est le problème ? Dans le même chapitre premier de la Genèse, Dieu a donné à l'homme la gestion de la terre et même la domination sur les animaux. Et là, il faut bien reconnaître que cela a fait bien des dégâts. Pendant des millénaires, l'homme a mal géré. L'homme n'a pensé qu'à son intérêt immédiat. Alors depuis quelques décennies, une partie de la population a pris conscience que l'homme a mal géré la nature et mal géré les ressources qu'elle nous offre. Des initiatives ont été prises, il faut le reconnaître, avec des tentatives plus ou moins adroites pour y remédier. L'efficacité est loin d'en être démontrée. De plus, en ce qui concerne l'être humain lui-même, on est loin du compte. Il continue à faire fi des recommandations de son Créateur, reniant même les bases de la nature humaine. Par exemple, on prétend donner la liberté à l'être humain de savoir choisir s'il est un homme ou une femme. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La liberté, pourtant, c'est aussi un cadeau que Dieu nous a fait. Ça fait partie des dons que Dieu nous a fait. Cela nous amène à voir qu'il y a diverses catégories de dons. Il y a les dons que nous avons en commun et que nous devons gérer ensemble, la vie animale, la nature, ses ressources, et il y a ceux qui nous sont propres et que nous avons à gérer personnellement et à entretenir, notre corps, nos biens, notre culture, etc. Tout cela, tout le monde en a plus ou moins conscience. Mais Dieu nous a fait aussi d'autres dons, des dons qu'il dispose pour nous, et cela, nous devons les accepter, et même, nous devons nous en emparer par la foi. Il y a sa grâce. sa grâce. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Paul écrit dans 1 Timothée 2, 3 et 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et dans Éphésiens 2, 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cette grâce qui nous donne le salut, elle nous est offerte. Et c'est à nous de l'accepter, elle s'obtient par la foi. Contrairement aux dons que j'ai énumérés tout à l'heure, le corps, l'intelligence et toutes ces choses-là, on les a reçues, on ne choisit pas. Mais la grâce, elle nous est offerte. Et c'est à nous de l'accepter. Et il y a un autre cadeau que Dieu nous offre. Et ça a été le sujet de la louange tout à l'heure. On ne s'était pas consulté. L'autre cadeau que Dieu nous offre, c'est son esprit. Et c'est aussi Paul qui écrit dans Galates 3, 14, « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. » Et Jésus lui-même dit dans Jean 14, 16, verset 17, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » Bien que comme la grâce, l'Esprit s'obtienne par la foi, il n'est accessible qu'à ceux qui ont accepté cette grâce. Jésus fait intervenir un autre critère aussi. Dans Jean 14, versets 23 et 26, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cette foi est donc le fruit de l'amour. Cette foi qui nous fait accepter la grâce, qui nous fait accepter l'Esprit, elle engendre aussi l'obéissance. Ces textes nous disent que Jésus a donné un enseignement à ses disciples et que le Saint-Esprit est maintenant en nous pour nous rappeler cet enseignement. Nous ne sommes donc pas sous une loi, mais sous la libre observation de l'enseignement du Saint-Esprit. C'est l'amour qui nous lie à Christ qui nous aide à suivre son enseignement. Nous savons tous que faire les choses par amour, ce n'est pas la même chose que s'astreindre à un règlement. Et moi, il y a un texte que j'aime particulièrement, une phrase qui nous est donnée dans la Genèse, au chapitre 29, que j'aime vraiment. Elle concerne Jacob. Il est dit « Et Jacob servit pour Rachel 7 années, elles furent à ses yeux comme un peu de jour parce qu'il l'aimait. » Jacob a travaillé dur 7 années pour pouvoir épouser Rachel et à ses yeux, ça passe comme quelques jours. C'est beau l'amour. Cette contrainte que lui avait imposée Laban n'en était plus une parce que le but correspondait à ce qui lui était cher. C'est librement qu'il accomplissait ces 7 années. Ce n'était pas 7 années d'esclavage, c'était 7 années qu'il accomplissait pour obtenir ce qu'il voulait obtenir. Eh bien, nous vivons la même liberté, une liberté qui est conduite par l'amour. Paul nous en parle aux Galates, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 13 et 14. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous donne la liberté de choisir sa grâce, la liberté de marcher sur son chemin, la liberté de suivre les indications de l'Esprit, comme ça nous a été rappelé tout à l'heure. Mais délibérément marcher sur un autre chemin, succomber aux tentations que l'ennemi nous présente, ça nous rend esclaves d'un autre maître. La liberté des enfants de Dieu est dans le fait que nous choisissons ou pas de le suivre, ou de suivre un autre maître. La liberté offerte par Dieu ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Le prophète Malachie, au chapitre 2, verset 17, écrit « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. » Vous savez, il y avait une chanson « On ira tous au paradis ». Ah ben oui. Ben non. Où est le Dieu de la justice ? Continue Malachie. L'amour que Dieu a pour nous n'occulte pas sa justice, mais nous pousse naturellement à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et en aimant Dieu et en aimant notre prochain, nous sommes tous naturellement poussés à faire le bien. Malachie, au nom de l'Éternel, interpellait Israël. Eh bien, l'apôtre Paul nous interpelle, nous, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 23 et 24. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. La vraie liberté ne s'acquiert pas sans garde-fou. J'aimerais vous donner un exemple concret de ces garde-fous. Quand j'étais enfant, j'aimais bien aller dans les coteaux derrière chez mes parents, et je montais jusqu'à un endroit où maintenant il y a un belvédère, au-dessus de la plaine de Mathé, et il y a un point de vue magnifique, mais il y a une falaise. Et quand j'étais enfant, il n'y avait pas de barrière. Et c'était hyper dangereux d'aller là. Maintenant, la commune a fait une barrière, il y a un belvédère, et on peut librement s'approcher, on peut s'appuyer sur la rambarde et pleinement profiter du paysage. La barrière, elle n'est pas un obstacle. C'est le contraire d'un obstacle. Eh bien, lorsque Dieu nous indique ce qui est bon pour nous, ce n'est pas pour nous faire perdre notre liberté. Comme la barrière du belvédère, elle permet en s'y appuyant de profiter pleinement de vue sans chuter. Les recommandations de notre Dieu nous permettent de profiter pleinement de notre vie sans tomber. S'en affranchir ne nous rend pas libres, s'en affranchir nous met en danger. C'est en acquérant cette écoute de l'Esprit que nous pourrons élargir notre horizon et que nous pourrons bénéficier de tous les dons que le Saint-Esprit nous accorde. Nous ne peignons peut-être pas aussi bien que Francisco. Nous ne courons peut-être pas aussi vite qu'Usain Bolt. Nous n'aurons sûrement jamais le prix Nobel ou le prix Goncourt. Mais il y a mieux à faire. Nous pouvons faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour que nous les pratiquions. Et si nous suivons les indications du Saint-Esprit, alors nous pourrons jouir pleinement de ces choses. Ça passera peut-être inaperçu aux yeux du monde. Ça ne fera pas la une des journaux, et ça ne nous donnera pas la Légion d'honneur. Mais il y aura de la joie dans le ciel, et nous pouvons affirmer avec Paul, dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Êtes-vous concerné? Jacques aussi nous affirme la même chose. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Nous aimons sans doute être à la hauteur de nos ambitions et nous aimons surtout ne pas être dévalorisés aux yeux des hommes. Mais le juste juge a une autre échelle de valeur. Être à la hauteur des ambitions que Dieu a pour nous, c'est même plus facile qu'être à la hauteur de nos ambitions. Parce que non seulement il nous donne l'objectif, mais il nous donne le moyen d'y parvenir. Lorsqu'on arrive à la retraite, on est beaucoup dans ce cas-là ici, on a plein d'objectifs. On croit qu'on aura du temps à revendre. Il y a Benoît Leblanc, un scientifique, qui a écrit avec humour « Arrivé au moment de la retraite, il n'y a plus rien à faire, ce qui nous donne le temps d'accomplir beaucoup de choses. » Malheureusement, très vite, on est rattrapé par nos limites. Et lorsqu'on visite des personnes âgées qui ont été affaiblies par l'âge, elles se trouvent souvent devenues inutiles parce qu'elles ne peuvent plus accomplir ce qu'elles faisaient avant. Plus d'évangélisation ou de prédication, plus de visites aux malades, plus d'aide ou de service dans l'église. Se sentir inutile, c'est dur à vivre. Alors c'est pour cette raison que nous ne devons pas perdre de temps quand nos forces restent suffisantes. Cependant, l'homme a été créé comme le chef-d'œuvre de toute la création. Et tout chef-d'œuvre, par lui-même, il est à la gloire de l'artiste qui l'a réalisé. Beaucoup de psaumes nous initient et nous invitent à louer Dieu. Et dans le ciel, les sauvés de la première alliance comme ceux de la nouvelle alliance louent l'Éternel. On lit dans Apocalypse chapitre 15, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » On voit que tous ceux qui seront dans l'éternité avec Dieu le loueront de tout leur cœur. Et lorsqu'on loue l'Éternel, on fait ce pour quoi on a été créé. Lorsqu'on loue l'Éternel, qu'on médite sa parole, qu'on le prie, on n'est pas inutile. On accomplit ce pour quoi on a été créé. Seul l'ennemi de Dieu peut être contrarié et peut nous faire croire le contraire. Alors, quelles que soient nos forces, quelles que soient nos capacités, laissons l'Esprit de Dieu nous guider, nous conduire dans ce que nous pouvons faire ou quand nous ne pouvons plus faire, dans la louange, dans la prière, dans l'écoute. Laissons l'Esprit de Dieu nous montrer ce pour quoi nous sommes faits. Et au travers de nous, Dieu pourra se glorifier. Nous avons été créés comme de merveilleuses machines, comme de merveilleux tableaux à la gloire de Dieu. Alors, glorifions Dieu. Je termine par la prière. Seigneur mon Dieu, tu as fait de nous des êtres extraordinaires, tout à ta gloire, pas à notre gloire, à ta gloire. Merci, merci pour tous ces cadeaux que tu nous as faits. Merci pour le corps, l'esprit, l'intelligence, tous ces cadeaux merveilleux, la santé quand elle est là. Et merci pour ta grâce que j'accepte de tout mon cœur. Merci pour ton esprit que je veux garder en moi et que je veux laisser agir en moi et par qui je veux me laisser conduire ce matin, comme ces témoignages nous l'ont montré encore ce matin. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas inutile. Quel que soit mon état, je ne suis pas inutile. Je suis né pour te glorifier. Il y a un chant qui le dit. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu veux faire encore en moi et ce que tu veux faire au travers de moi. Merci pour cette grâce. Et je ne veux pas enterrer ce talent que tu m'as donné. Et je veux te louer et te bénir, te glorifier et agir partout où tu veux me faire agir. Loué sois-tu Seigneur. Loué sois-tu pour ton Église. Loué sois-tu pour chacun de ses membres. Amen.